Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 du podcast « Quand dit la Bible ». C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés et franchement, ça m'avait manqué d'enregistrer et de partager du contenu. Je viens de voir là que ça fait plus d'un an que j'ai sorti le dernier épisode. Donc clairement, c'est long, trop long. Je vais essayer de faire mieux pour les prochaines fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant toute cette année, j'ai pas chômé quoi. Et entre autres, j'ai pu écouter différents podcasts, j'ai pu réécouter mes épisodes précédents, et j'ai pu voir toutes les petites choses qu'il fallait que je corrige, que j'améliore pour les prochaines fois. Donc j'espère que ça sera mieux. Et j'espère que vous allez aimer cet épisode qui va vous édifier. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors aujourd'hui, cet épisode il sera un peu particulier, différent des autres, parce que contrairement à tous les autres épisodes, là cette fois j'ai aucun texte de préparé, j'ai rien écrit, j'ai pas de script. J'ai fait ce choix parce que je trouvais que dans les autres épisodes ça s'entendait trop en fait que je lisais, malgré le fait que j'essayais de me détacher le plus possible du texte. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où je répète les séquences pour que ça ait l'air fluide. Et pourtant, malgré tout, je trouve que ça s'entend que je lis. Et je trouve que ça gâche un peu, entre guillemets, l'expérience. Donc, il faut que je trouve une méthode, un moyen. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de partager une petite réflexion. Ça ne sera pas très long, sans texte, pour que voilà, ce soit bien fluide et que, c'est vraiment, que vous ayez vraiment l'impression que ce soit presque un dialogue entre vous et moi, en fait. Alors vous l'avez vu, le titre de cet épisode c'est « Quelle direction vais-je donner à ma vie ?» Alors pourquoi j'ai choisi ce titre ? Tout simplement parce que je pense que dans nos vies respectives, on est tous passés ou on va tous passer par des moments où on va plus ou moins se poser cette question. Parce que par exemple, on a réussi dans tel domaine ou au contraire on a échoué dans tel domaine. Parce que on a l'impression qu'on n'avance pas dans nos vies. Ou parce qu'on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas quelle étude faire, on ne sait pas quel métier choisir, ou peu importe. Et voilà, on va tous être amenés à se poser cette question-là de différentes manières. Et moi particulièrement, personnellement, ce qui m'a incité à me poser cette question, c'est deux événements-là en particulier que j'ai vécu récemment. Et dont l'un de ces événements-là, c'est tout simplement que j'ai été diplômé grâce à Dieu. J'ai fini mes études, j'ai fini mon cursus universitaire. Et là, je rentre dans la vie professionnelle et adulte. Et je me rends compte que j'ai plein de choix à faire, plein de décisions à prendre. Et que j'ai surtout besoin d'être guidé par Dieu dans ces choix et dans ces décisions que je vais prendre. Vraiment besoin d'être guidé par Dieu, par son esprit. Et c'est vraiment hyper excitant à la fois et ça fait peur en même temps. Donc voilà pour le titre, pour l'explication du titre. Alors bien entendu, cette question « Quelle direction vais-je donner à ma vie ?» c'est la question de base principale, mais elle sous-entend d'autres questions qu'on va voir ensemble et qui sont, alors, qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Quelles sont mes priorités ? Quel est le sens de ma vie ? Quel impact je veux avoir autour de moi ? Et quelle trace je veux laisser dans ce monde ? Je pense que c'est des questions qui sont pour moi vraiment fondamentales et importantes, notamment pour nous en tant que chrétiens, parce que c'est ces questions-là qui vont nous permettre de voir en fait quelle place je donne ou je vais donner à Dieu. Plus tard dans ma vie, est-ce que j'ai confiance dans le plan qu'il a pour moi, et je pense que encore une fois, enfin ça c'est des questions que tout le monde peut se poser, mais pour nous en tant que chrétiens, je pense que c'est vraiment fondamental pour pouvoir construire nos vies sur des bases vraiment solides. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vécu deux événements qui m'ont amené à avoir cette réflexion là. Donc le premier c'est la remise de diplôme. Et l'autre, c'est, il s'est passé quelques jours avant la remise. C'est en fait, je suis allé faire un foot. C'était le dernier foot avec les gars de ma promo, avec un prof aussi. Donc voilà, on a fait un petit five. Malheureusement, j'ai perdu, mais bon, ça c'est un détail. Mais surtout, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à la fin, on s'est retrouvés, chacun a pris ses boissons et on a commencé à discuter. Et là, en discutant avec les gens de ma promo et tout, c'était pas la première fois, pourtant, mais là, je me suis vraiment rendu compte qu'on a vraiment des perspectives de vie différentes. Donc attention, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que leur perspective de vie, elle est mauvaise et que la mienne est bonne. Non, pas du tout. Mais je me suis juste rendu compte que nos perspectives, elles étaient vraiment différentes. Et à la suite de ces discussions, en fait, en rentrant chez moi, c'était la première fois que ça m'est arrivé, enfin, je me suis vraiment posé la question de est-ce que j'ai bien vécu ma vie étudiante? Ça, c'est la première fois que je me posais la question et ça m'a vraiment interpellé. Honnêtement, je ne saurais pas exactement expliquer qu'est-ce qui m'a amené à me poser cette question. Je pense qu'il y avait un petit peu de nostalgie par rapport au fait que c'était mes derniers instants de vie en tant qu'étudiant. Mais en me posant cette question, ce que je sous-entendais, c'était est-ce que j'ai bien fait d'être aussi peu présent, voire pas du tout présent à toutes les soirées qu'il y a eu pendant ma licence et même avant, pendant mes années à la fac? Est-ce que j'ai bien fait de mettre autant de distance avec toutes les filles de mon institut? Est-ce que j'aurais pas dû tenter, comme tous les autres gars, d'avoir des rapports plus proches avec certaines filles et du coup, après, derrière, de coucher avec elles? Je me suis posé toutes ces questions-là et à la suite de cette ébauche de réflexion, je me suis dit que non, j'ai bien fait. J'ai bien fait de chercher à rester fidèle à Dieu. Bon, après, attention. Je ne suis pas en train de dire que être fidèle à Dieu, ça veut dire de s'abstenir de toute soirée, de tout rapport avec les filles. Non, pas du tout. Mais ce que je pense, c'est que dans mon désir de vouloir rester accroché à Dieu et de respecter ses principes, ça m'a amené à adopter un certain type d'attitude, de comportement, qui en fait m'ont protégé de beaucoup de choses. Juste avant de continuer, tout à l'heure j'ai dit oui, tous les gars de mon institut qui voulaient se rapprocher des filles pour coucher avec elles. Bon, c'est pas totalement vrai, c'est pas tous les gars, mais là je décris une tendance générale. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que voilà, on va pas se mentir. Pour moi, les soirées, enfin à part si je me trompe, hein. Mais les soirées, ça fait partie, je pense qu'on est d'accord, intégrante de la vie des étudiants. Et je trouve que pour moi, en tout cas, en tant que chrétien, le fait d'aller en soirée avec des gens qui ne partagent pas ma vision de la vie, qui ne partagent pas mes principes, qui en fait ne partagent pas ma foi, tout simplement, aller en soirée aussi avec des où il y a plein de filles, des filles qui peuvent potentiellement me plaire, des soirées qui sont souvent, enfin, non pas souvent, mais tout le temps arrosé avec de la musique. Enfin, le fait qu'il y ait de la musique, c'est pas un problème, mais c'est tout un ensemble de choses qui voilà, c'est tout un ensemble de choses qui pour moi sont, en tout cas pour moi, hein, de ma propre expérience, sont compliquées à gérer et peuvent constituer des tentations. J'espère que vous comprenez bien que je suis pas en train de dire que les soirées c'est mal, que c'est pas bien du tout, que c'est péché ou je sais pas quoi. Non, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en fonction du type de soirée où l'on va, avec qui on va, on s'expose à un certain type de choses. Et pour des gens qui veulent rester fidèles à Dieu, c'est dangereux. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Donc voilà, là j'ai posé le contexte de ma réflexion. Et donc là, on va voir ensemble la première question qui est: qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Donc là, je vais vous donner, moi, quelques exemples perso sans rentrer dans les détails. Mais bien sûr, c'est une question que je vous invite à vous poser à vous-même pour vos vies. D'ailleurs, il y a deux questions, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour moi et quelles sont mes priorités? Bon, elles sont un peu liées, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que c'est, maintenant que je suis diplômé, c'est de devenir le meilleur podologue? Parce que voilà, je suis diplômé en tant que podologue maintenant, aujourd'hui. Est-ce que c'est de viser, on va dire, le plus haut niveau? Est-ce que c'est être omnibulé par Alors pourquoi pas, je sais pas moi, faire une thèse, faire des recherches. Est-ce que ce qui compte le plus pour moi, c'est de mener ma propre vie pépère dans mon coin tranquille, avec une grosse maison, une belle femme, des enfants, être riche, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, être riche clairement. Après, attention. Toutes ces choses-là ne sont pas des mauvaises choses en soi. Qui ne rêve pas, je pense, d'avoir une belle maison, en tout cas une maison qui lui plaît, où on se sent à l'aise, qui ne rêve pas d'avoir une belle voiture, ou en tout cas une voiture qui lui plaît, voilà, qui ne rêve pas d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir vivre correctement. Ça, c'est pas un problème en soi. Le vrai problème en soi, c'est l'importance qu'on donne aux choses. Si l'argent c'est mon Dieu, si chaque jour je me lève, je pense qu'à l'argent, je pense qu'au profit, je pense qu'au chèque que je vais encaisser à la fin du mois, là il y a un problème. Mais sinon, le fait d'être riche, c'est pas un problème. Dans la Bible, il y a plein de gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient de gros gros moyens. Je pense à Abraham, je pense à Job, c'était des gens qui étaient richissimes. Je pense à aussi David qui était roi et qui avait des moyens. Mais pourtant, ces hommes, c'était des hommes selon le cœur de Dieu, qui honoraient Dieu, et parce que leur priorité, c'était pas l'argent. Leur priorité, c'était de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu attendait d'eux. Et c'est là toute la nuance, et c'est là le piège, en fait, en quelque sorte. Moi, honnêtement, je pense, bon, après, on va certainement trouver des exemples, enfin des contre-exemples, mais moi, je pense que quand on fait de Dieu sa priorité, quand on cherche premièrement son royaume, comme c'est écrit dans la Bible, quand on est vraiment préoccupé par le fait de suivre la volonté de Dieu, hein, et là quand je dis ça, c'est pas forcément d'aller évangéliser, de faire des campagnes, non, c'est pas ça. Juste suivre, enfin juste chercher à être fidèle à Dieu au quotidien. Voilà, simplement. Pas, je dis même pas faire des campagnes d'évangélisation avec des millions de personnes. Non, 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 je parle pas de ça. Moi, je pense que quand on cherche tout simplement à suivre Dieu au quotidien, je pense qu'après, les bénédictions, ça suit tout seul, ça coule de source presque. Évidemment, il y a des difficultés, il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est une vie facile, non. La vie chrétienne, c'est une vie justement où il y a beaucoup d'efforts, de combats, de luttes, il y a des difficultés, mais Dieu est toujours là, et il nous guide, il nous fait triompher justement. Mais quand on cherche Dieu, les bénédictions, ça coule de source après. C'est comme, il y a plein d'exemples dans la Bible qui sont comme ça. Joseph, par exemple, quand il était, il arrivait en tant qu'esclave, il arrivait en tant qu'esclave en Égypte. Il a même été en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Ben, sa fidélité, sa persévérance, elle a fini par payer. Il est devenu premier ministre. Enfin, c'était un truc complètement inattendu. Enfin, c'est même improbable. Enfin, comment, à quel moment tu passes de prisonnier à premier ministre? Enfin, aujourd'hui, on verra jamais ça. Et voilà, pour Joseph, c'est arrivé parce qu'il a été fidèle, il a persévéré, il s'est accroché à Dieu. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Après, bon, la fin, enfin, il y a des histoires où ça finit pas toujours comme ça. Je pense par exemple à Jean-Baptiste. Il est resté fidèle à Dieu. Il a fait ce que Dieu attendait de lui et malheureusement il est mort décapité. Voilà. Bon, c'est cru, c'est horrible, clairement. Mais de façon générale, enfin, quand tu suis ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est notre Créateur. Automatiquement, derrière, enfin, tu verras les bénéfices, quoi. Ce ne sera pas forcément la richesse, mais tu verras, on va dire, la récompense, entre guillemets. On peut voir les choses comme ça. Voilà, je pense que c'est vraiment important de se demander qu'est-ce qui compte le plus pour nous et quelles sont nos priorités. Ensuite, la troisième question qui me paraît vraiment importante, c'est quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui me motive à me lever tous les matins? Qu'est-ce qui va me prendre le plus de temps au quotidien? Est-ce que le sens de ma vie, c'est juste de profiter un max? De profiter un max pendant qu'on est jeune et après de mourir jeune, on va dire. Non. Est-ce que le sens de ma vie, plutôt, c'est d'apporter quelque chose de positif à l'autre? Moi, personnellement, le sens de ma vie, c'est vraiment en fait de me laisser transformer par Dieu, de le laisser changer mes défauts de caractère, de le laisser me façonner à son image de manière à ce qu'il puisse m'utiliser comme il veut, là où il veut, quand il veut. C'est ça le sens de ma vie. Clairement, c'est ça qui me motive. Enfin, oui, c'est ça qui me motive moi personnellement. J'ai bien pris conscience des capacités que Dieu m'a données et qu'il souhaite m'utiliser. Et donc vraiment, mon objectif au quotidien, c'est de le laisser me changer, me façonner vraiment à son image. Ça, c'est vraiment le sens de ma vie. Et j'espère que ça le sera toute ma vie, hein, parce que bien évidemment, la foi chrétienne, c'est une course. On peut très bien commencer, mais on peut ne pas finir aussi. Hein. Donc ça, il faut faire attention à ça. Pas parce qu'on s'est baptisé qu'actuellement on lit notre Bible 56 heures par jour, que dans 10 ans ça sera toujours le cas. Et que voilà, il faut savoir que le plus important c'est la manière dont on finit la course. Enfin, c'est ce que je pense. Après, voilà, je voudrais rajouter une petite chose. Tout à l'heure j'ai dit est-ce que le sens de ma vie c'est de profiter un max et de mourir jeune. Après, quand je dis ça, attention, je suis pas en train de dire que vouloir profiter de sa vie, c'est un problème et c'est pas bien. Non, pas du tout. Moi, je suis le premier à vouloir profiter de ma vie, notamment de cette période de jeunesse, où je suis plein d'énergie, en bonne santé. Voilà, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller à droite, à gauche, j'ai même des destinations en tête. Mais là où il faut faire attention, c'est est-ce que c'est ça qui est le sens même de ma vie? Est-ce que c'est ça qui est l'essence de ma vie? Et pour moi, personnellement, je pense que c'est pas une bonne chose que ce soit ça. Faut vraiment que vous preniez conscience que chacun d'entre nous a des capacités que Dieu lui a données. Tout le monde, évidemment, a de la valeur. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu veut utiliser chacun d'entre vous, d'entre nous. Enfin, voilà, Dieu veut nous utiliser tous nous utiliser dans un but bien précis. Enfin, Dieu veut nous bénir, il veut notre bien d'abord. Et ensuite, à travers les bénédictions qu'il nous donne, il veut nous utiliser pour que nous-mêmes, nous puissions être en bénédiction aux gens qui sont autour de nous. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Et il ne faut pas laisser les échecs de la vie, je sais pas moi, si on enchaîne les échecs dans des partiels, ou si on n'arrive pas... Je sais pas moi, à faire n'importe quoi, franchement, faut pas se laisser déstabiliser par ça. Il faut pas oublier que Dieu a un plan pour nous. Il souhaite utiliser ce qu'il nous a donné, les qualités qu'on a, pour faire du bien à d'autres. Là, dernièrement, je lisais une méditation, et dans cette méditation, ils ont donné un exemple que j'ai bien aimé. C'est tout simple, hein, mais c'est l'exemple d'un arbre. Mais cet arbre, il va produire des fruits. Peu importe le fruit, mais ces fruits-là, ils sont destinés à qui? Ils sont destinés à l'arbre lui-même ou aux autres? Non, ils sont destinés aux autres. Voilà, les pommes, c'est pas l'arbre qui va les manger. Enfin, c'est nous, les êtres humains. Et donc nous, c'est pareil. Les qualités que Dieu nous donne, les fruits qu'il nous permet de porter, c'est pour que d'autres en profitent. C'est pas pour nous égoïstement. Et ça, c'est un exemple très simple, mais que je trouve très parlant. Et que j'aime bien et qui doit, enfin que moi que je garde en tête. Voilà. Et je pense que c'est utile de s'en rappeler. Alors les deux dernières questions qu'on va voir ensemble, qui sont très liées, hein, pareil, comme tout à l'heure, c'est quel impact je veux avoir autour de moi et quelle trace je veux laisser dans ce monde. Il faut savoir que on a tous une influence les uns sur les autres, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, on influence notre prochain par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous habiller, par les choix qu'on fait dans nos vies. Et cette influence-là, c'est un instrument qui est extrêmement puissant, qui peut faire beaucoup de bien comme beaucoup de mal. Et donc du coup, Dieu nous demandera des comptes de la façon dont on a utilisé notre influence au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, on a un exemple très concret de la puissance de l'influence, et c'est un exemple qui est propre à notre génération, avec la notion de influenceur, qui montre bien et que les gens ont compris la puissance de l'influence. Tu as des influenceurs, justement, ils ont des millions d'abonnés, parce que de par leur façon d'être, de par leur style, mais ils vont toucher un large public, et les marques, elles ont très bien compris ça. Et du coup, c'est pour ça que tous les influenceurs, ou beaucoup d'entre eux, multiplient les collaborations ou les contrats avec des marques. Les marques ont très bien compris qu'une personne qui a de l'influence, c'est une personne qui va leur permettre de vendre. Et voilà. Donc c'est vraiment dire de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Et c'est pour ça que c'est important de demander à Dieu de nous aider à ce que, on puisse avoir une bonne influence sur les autres autour de nous. Et moi, du coup, clairement, je veux avoir un impact positif autour de moi. Je veux être quelqu'un qui tire les gens vers le haut, et même pas que sur le plan spirituel, hein. Je veux être quelqu'un qui motive les gens, qui va valoriser l'autre, qui va, pas juste par des paroles, hein, mais juste par ma façon d'être. J'ai envie que ça puisse, pourquoi pas, inspirer d'autres personnes, que ça puisse encourager d'autres personnes dans différents domaines. Enfin, moi, il y a plein de gens qui m'inspirent, des gens qui sont même pas connus, hein. Ça peut être des gens qui sont autour de moi, des amis, je leur dis pas forcément, mais qui m'inspirent sur tel ou tel domaine. Il y a mes parents, il y a voilà ma famille, il y a plein de gens. Et oui, pour moi, c'est vraiment important que je puisse avoir un bon impact. Enfin, je veux pas avoir sur la conscience, par exemple, mais qu'à cause de mes attitudes, qu'à cause d'un truc que j'ai fait, mais que j'ai fait tomber tel, enfin que j'ai été une occasion de chute pour telle ou telle personne dans tel ou tel domaine. Moi, je pense par exemple à l'exemple de Jéroboam dans la Bible. Donc, c'était un roi, c'est un roi qui a succédé, je crois, si je ne me dis pas de bêtises, à Salomon. Et alors qu'il était roi, que Dieu le bénissait et tout, entre guillemets, il a pété un câble, il a disjoncté, il est tombé dans l'idolâtrie. Et c'est le premier roi qui a fait tomber, si je ne dis pas de bêtises encore, le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Et ça, enfin. Et à cause de lui, tu as beaucoup de gens qui sont devenus idolâtres. Dieu les a punis. Il y a eu beaucoup de conséquences à cause d'un seul homme. Alors je me dis, non, c'est chaud. Moi, je veux pas avoir un impact aussi négatif. Bon, après, je vous invite à aller directement lire l'histoire de Jéroboam, parce que là, j'ai fait de gros raccourcis. Mais en gros, c'est ça, hein. Mais voilà, ça, c'est quand même de bons exemples dans la Bible qui moi m'aide, enfin, qui sont pour moi des rappels des dégâts qu'on peut faire vraiment autour de nous à cause de mauvais comportements, de mauvais choix. Voilà, au sein d'une église, d'une communauté, de manière générale, on se regarde les uns les autres, qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue ou non, on se regarde les uns les autres. Et pour nous, chrétiens, sans se rendre compte, parfois, quand on fait quelque chose consciemment qui va à l'encontre des principes de Dieu, il faut savoir que on peut entraîner quelqu'un dans notre chute aussi. Ça peut être sur n'importe quoi, hein. Par exemple, le truc tout bête sur la nourriture. Par exemple, t'en as un, il commence, il va. Par exemple, on est entre adventistes, entre guillemets. Après, voilà, il n'y a pas de jugement ou quoi, hein, mais s'il y en a un, par exemple, imaginons, je sais pas, on est au resto et qu'il y a un plat avec du porc. Bon, là, je prends l'exemple de base adventiste, hein. Vraiment, il y en a plein d'autres, hein. Il y a un plat avec du porc et qu'il y en a un qui prend, voilà, parce qu'il a envie de manger, il a faim, tac. Et peut-être que du coup l'autre à côté qui de base, enfin qui hésitait, et comme il va voir l'autre qui en a pris, il va en prendre aussi. Voilà. Enfin, c'est truc tout bête, hein. Voilà, après ça existe en sens inverse, justement. Il y en a un, il hésite, il va pas prendre, mais ça va encourager l'autre à pas en prendre. Donc voilà, c'est vraiment important. Enfin, l'influence, c'est puissant. Et voilà, il faut faire attention, parce que Dieu nous demandera des comptes. Ça, c'est sûr. Donc voilà, pour ces questions. Bien évidemment, il y en a plein d'autres, hein, des questions qu'on peut se poser. Mais là, je trouvais que c'était déjà pas mal. Ouais, ça me paraissait bien déjà. Donc, j'espère que ça va vous aider à choisir la bonne direction pour vos vies. Moi, pour moi, après, on peut en discuter, hein, mais pour moi, la meilleure direction, le meilleur choix à faire, c'est de suivre Dieu. C'est pas simple. Clairement, moi, je me rends compte que, en fait, suivre Dieu, c'est vraiment marcher à l'aveugle, hein. Parce qu'en fait, moi, je sais pas ce que Dieu a prévu pour moi exactement. Là, ça se trouve, demain, je sors, je fais un accident, je meurs, ou je viens tétraplégique, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que Dieu a prévu pour moi. Peut-être que, ou peut-être pas, ça se trouve, je vais vivre une belle vie, tranquille. Enfin, tranquille avec des difficultés, tout ça, mais globalement, une belle vie. Ça se trouve, j'aurai beaucoup d'argent, ou beaucoup de. Je serai le meilleur podologue du monde, j'en sais rien. Mais voilà, enfin, vraiment, je me rends compte que la marche avec Dieu, c'est. On marche à l'aveugle et on doit. Et on avance vraiment par la foi, quoi. C'est ça, on avance par la foi. Et c'est pas simple. Aussi quelque chose que j'ai compris et que j'ai lu dernièrement dans une méditation, c'est que l'attente, le fait d'attendre, ça fait vraiment partie intégrante de la vie du chrétien. De la même façon, bah, qu'un arbre, avant de devenir un arbre, il passe par plein d'étapes, par une petite plante, ensuite voilà, un petit arbre, un moyen arbre, on va dire ça comme ça. Enfin bref. Il y a tout un processus, pareil pour un adulte, il ne devient pas adulte du jour au lendemain. Il grandit petit à petit, voilà. Enfin, l'attente, ça fait partie de la vie du chrétien, et c'est comme ça que Dieu, entre autres, éprouve notre foi. C'est vrai que c'est dur. Par exemple, dans la Bible, entre le moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et le moment où il est arrivé en terre promise, en Canaan, il s'est passé du temps. Ou aussi un exemple qui me parle, c'est avec David. Entre le moment où David a tué Samson et le moment où il est devenu roi, enfin il n'est pas devenu roi tout de suite, il y a eu beaucoup, beaucoup d'années entre les deux, de combats, de luttes. Et il est devenu officiellement roi d'Israël au bout de je sais plus combien d'années. Enfin, donc voilà, le fait d'attendre une réponse aussi pour une prière, c'est normal. Après, il y a des prières, enfin, il y a des situations où on attend des réponses. Enfin, il faut une réponse rapide. Après, là, c'est Dieu qui gère. Mais il faut pas s'inquiéter. Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre et qui est dur, hein, parce que moi, clairement, des fois, je veux une réponse tout de suite. Enfin, quand je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Enfin, voilà. Mais Dieu, il marche pas comme ça. Donc, il faut être patient, soyons patients et ben, avançons par la foi. Voilà. Petite correction, tout à l'heure, j'ai dit David a tué Samson. Évidemment, c'est pas Samson, hein, c'est Goliath. Mais voilà. Cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça va vous édifier, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux notamment et pour ceux qui me connaissent bah, dans la vraie vie. Excusez-moi pour le bruit derrière. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt.